Il est 6h02 minutes à la météo aujourd'hui. C'est du temps généralement ensoleillé. Il va faire 25 degrés, 27 à l'humidex. C'est à peu près le même scénario pour demain. Alternant soleil-nuage, 27 degrés aussi avec 30 à l'humidex. Donc, des belles journées en perspective. Du soleil prévu pour samedi avec 28, mais des averses qui devraient... frapper la grande région de Montréal dimanche avec 27 degrés cependant. Et le retour du soleil est prévu pour lundi. Alors, une petite passe un peu plus grise là dimanche, mais ça va revenir au beau par la suite. Il fait 14 degrés en ce moment à Montréal. Bon, on s'y attendait un peu, là. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, hier a annoncé que le projet de GNL Québec ne pourra pas voir le jour. C'est les mots qu'il a utilisés. Les inconvénients sont beaucoup plus importants que les bienfaits, a-t-il dit. Le gouvernement Legault a donc mis un terme à ce projet de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de Saguenay, qui prévoyait aussi la construction d'un long gazoduc qui partait de l'Alberta, 780 kilomètres, pour se rendre jusqu'au Québec. Alors, c'est un non officiel, a dit le ministre Charest hier. Il n'y aura pas d'usine de liquéfaction sur le Saguenay. Avec cette annonce, donc, le gouvernement Legault se rend au constat mis de l'avant par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, au mois de mars dernier. Et on a convenu là, que GNL Québec n'avait pas été capable de convaincre le gouvernement qu'on allait réduire la quantité de GES, de gaz à effet de serre, qu'on allait émettre de façon importante dans l'atmosphère. Alors, le ministre Charrette a d'ailleurs admis qu'on avait... au départ, un préjugé plutôt favorable à ce projet-là, qu'on voulait le faire. Le gouvernement y croyait, mais finalement, après avoir obtenu les avis de différents organismes, dont le BAP, on s'est rendu compte que ça tenait pas debout. Alors, ce qui reste là maintenant, pour GNL Québec, c'est de... Si on voulait refaire un autre projet, puis refaire ses devoirs, puis présenter une nouvelle demande, il faudrait modifier... le projet et présenter un autre dossier, mais complexe, qui pourrait prendre des années. Alors, je n'ai pas l'impression, surtout dans l'état actuel des choses, parce qu'ils ont perdu à peu près tous leurs partenaires financiers, GNL Québec, au cours des dernières semaines, des derniers mois. Je n'ai pas l'impression que ça va... qu'ils vont décider de se lancer là-dedans. En fait, si c'est pas mort, c'est à l'agonie assez solide. Et pendant ce temps-là, dans la région là-bas, comment ça réagit? Je vous en parlais hier, il y a beaucoup de maires de la région du Saguenay qui, eux autres, étaient plutôt d'accord avec ce projet-là parce que ça crée, bien sûr, de l'emploi puis ça amène dans les municipalités beaucoup de retombées en termes de taxes, entre autres, et des retombées économiques pour les villes pour pouvoir faire du développement. Alors, c'est normal que les villes... parce que, tu sais, quand tu construis une usine de quelques milliards de dollars, c'est sûr que la richesse foncière est assez augmentée, donc ça amène des revenus supplémentaires dans les villes. Hier, cette décision a été assez difficile à prendre pour certains élus, entre autres la mairesse là-bas qui, y voyait quand même un certain avantage. Et là, il y a des intervenants là-bas, entre autres Patrick Bérubé de Promotion Saguenay qui dit « Le gouvernement va être en dette envers notre région parce que c'est un projet qui était créateur d'emplois. Donc, on espère que le gouvernement va pouvoir arriver avec... d'autres projets d'envergure pour créer de l'emploi là-bas. Parlons un peu de la COVID. Christian Dubé, hier, le ministre de la Santé, un petit peu perdu patience à l'égard de ceux qui sont récalcitrants à la vaccination. Il a dit sur Twitter, « On le voit partout ailleurs, une quatrième vague frapperait les non-vaccinés et leurs proches en premier. Il est minuit moins une pour obtenir votre première dose. » Alors, il a durci le ton hier envers les Québécois non vaccinés, peut-on lire dans le journal de Montréal. Hier, il y a eu 103 nouveaux cas de COVID-19. Pour la première fois depuis un sacré bout de temps, on est repassé au-dessus des 100 cas. Et donc, c'est en montée actuellement. Évidemment, c'est pas la exponentielle comme ce qu'on peut voir dans différents pays. Là, on a vu, entre autres, en France, une augmentation en une semaine de 150% des cas. On est rendu à 18 000 cas par jour là-bas, c'est beaucoup. Et la majorité des nouvelles infections sont observées chez les plus jeunes et surtout auprès des Québécois qui n'ont pas encore reçu une première dose de vaccin au Québec. Près du tiers des 18 à 29 ans ne sont toujours pas vaccinés. Il y a encore 70 000 personnes chez les 18-34 ans qui n'ont pas pris rendez-vous pour leur première dose. C'est ce qu'a dit hier la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Alors, il reste que, si on compare avec ce qui se passe en Ontario, le fameux variant Delta qui inquiète tout le monde, ben, ne se répand pas chez nous à la vitesse qu'on pourrait le croire. Et pourquoi? Ben là, il y a plusieurs raisons. Il y a deux articles intéressants là-dessus qui jettent une espèce de lumière ce matin sur les raisons pour lesquelles on n'a pas autant de contagion du fameux variant Delta. D'abord, dans le journal La Presse, on nous dit « Fermeture des frontières, campagne de vaccination accélérée, mesures sanitaires, ce sont tous des facteurs qui ont empêché le variant Delta de se propager au Québec. » Il y a seulement 5 % des nouveaux cas chez nous, selon les données officielles, là, qui sont des variants Delta. Mais ça pourrait augmenter, préviennent certains spécialistes. Au total, on compte 239 cas recensés de cette souche, qui est pourtant jugée plus contagieuse que la souche originale et les autres variants. Et pour l'heure, c'est encore le variant Alpha qui domine, avec plus de 7200 infections qui ont été détectées. Et le médecin hygiéniste en chef adjoint de l'Ontario, la docteure Barbara Yaff, elle affirmait la semaine dernière que le variant Delta représente là-bas 88 % des nouvelles infections. 5 % chez nous, 88 % là-bas. Pourquoi? Ben, si on va voir dans le journal de Gazette ce matin, il y a peut-être une base d'explication. Et c'est peut-être parce qu'il y a chez nous un variant qui se développe et qui se développe pas nécessairement ailleurs. Alors, c'est un variant qui s'appelle le A.2.5, petit nom romantique ici, là, qui a été d'abord recensé en Amérique centrale. Par la suite, c'est remonté par les États-Unis, c'est entré au Québec, et c'est un variant qui a la particularité d'avoir 23 mutations différentes, dont une mutation qui s'appelle L452R, et qui est une mutation qui est associée au variant Delta. C'est pas le variant Delta, mais on retrouve des composants du variant Delta dans cette mutation-là. Et il y a des épidémiologistes qui émettent l'hypothèse que comme ce variant-là est le plus répandu chez nous, il prend peut-être la place que devrait prendre le Delta. Alors, ce serait l'explication avancée là pour expliquer le faible taux de contamination chez nous du fameux variant Delta, mais tout le monde s'entend quand même pour dire que c'est une question de temps et que le Delta, qui est 50 % plus contagieux que le variant Alpha qui se répand chez nous, va nous frapper de toute façon, c'est à peu près certain. Mais il reste que pour l'instant, c'est pas le cas, ça prend plus de temps à se développer chez nous, et ça, c'est la bonne nouvelle pour l'instant, et aussi le fait que on a été frappé un petit peu plus tard que les autres par, justement, ce nouveau variant Delta. Alors, c'est peut-être l'explication, je ne sais pas si ça va se vérifier dans le temps, mais c'est l'hypothèse, en tout cas, qui est émise par différents chercheurs. Bon, on parle bien sûr de cette vaccination, de cette campagne de vaccination et des vaccins qui sont homologués. À Québec, il y a une pharmaceutique qui s'appelle Medicago, qui est en train de construire une usine immense dans le quartier d'Estimoville et qui a aussi un candidat vaccin qui a été développé avec une technologie qui est complètement différente des autres. Mais donc, Medicago a pris du retard, peut-on lire ce matin dans le journal, c'est Le Soleil, je pense, oui, exactement. Donc, a pris du retard dans le recrutement des candidats qui sont nécessaires à faire les tests de ce fameux vaccin. Tu développes le vaccin, puis après, il faut que tu l'essaies. Il y a des phases d'essai. Ils sont rendus à la phase 3 de l'essai clinique du vaccin contre la COVID-19 pour voir si, d'abord, il fonctionne bien, s'il y a des risques qui sont associés à ce vaccin-là. Donc, on recrute des gens. On veut avoir 30 000 personnes pour vacciner puis voir comment réagit le vaccin. Or, on a de la misère à trouver des candidats, entre autres dans la région dans la région de Québec. Sur les 30 000 candidats espérés, Medicago en a trouvé pour l'instant, là, un peu moins de 20 000. Et parmi les pays qui ont été retenus pour le recrutement, le Canada, les États-Unis et l'Angleterre se sont avérés moins productifs que prévu. Il y a plusieurs vaccins qui ont déjà été disponibles pour la population. Fait qu'il y a peut-être moins de gens qui veulent se lancer dans cette phase d'expérimentation, de sorte que là, on est obligé de recruter des gens en Amérique du Sud, où le virus fait des ravages là-bas, pour tester le fameux vaccin. Alors, Santé Canada, évidemment, ne l'a toujours pas homologué. Et grâce à un financement de 173 millions de dollars du gouvernement fédéral, l'entreprise espérait récolter les fruits de ses efforts cet été pour obtenir l'homologation de Santé Canada. Mais là, ça prend du retard. Alors, mais écoutez, on s'inquiétera pas trop, là, parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où le taux de vaccination est à peu près à zéro, là. En Afrique, je pense que c'est 3% seulement de la population qui a reçu une première dose, c'est très peu. Alors, il y a quand même un marché pour ces vaccins-là, pour des pays, par exemple, qui n'ont pas les moyens peut-être de se payer le Pfizer ou encore le Moderna. L'AstraZeneca est de moins en moins populaire, mais quand même, il reste qu'il y a un marché mondial là, toujours présent pour ces vaccins. Bon, ça, c'est une histoire assez étonnante. Ça se passe à Gatineau. Il y a une maison sur la rue Fraser à Gatineau qui a été construite en 2013. Alors, le propriétaire de la maison s'appelle Patrick Mola et sa famille. Eux autres s'installent là-bas et puis ils présentent à la ville leur projet de construction d'une grosse maison. On parle de maison très luxueuse. Et puis, projet de 3 millions de dollars, grosse maison. Puis ils présentent ça à la ville. Puis là, ils disent, ben voici, on aimerait avoir le permis de construction. Donc, la ville regarde ça, prend les plans. Puis certificat de localisation, puis ils disent « OK, c'est beau, vous avez l'autorisation, puis construisez votre maison. » Alors, eux autres, ils s'installent, puis ils commencent à construire pour finalement se rendre compte qu'on avait fait une erreur dans le permis de construction. La maison est construite beaucoup trop proche de la rue. La distance entre la maison et la rue, normalement, aurait dû être d'environ 15 mètres, mais là, c'est juste 7 mètres. De sorte que la maison est très avancée et créée comme une espèce de mur pour les voisins. Alors là, les voisins, ils sont pas contents. D'abord, ça jette de l'ombre, puis tu as l'impression d'avoir littéralement un mur à côté de chez vous. Là, tu dis, ça n'a pas d'allure. Alors, ils ont porté plainte à la ville. La ville, elle, avait dit, quand la ville s'est rendue compte de son erreur, ils ont fait passer une dérogation mineure pour dire, ben là, finalement, on va l'accepter parce que c'est notre erreur. Mais les voisins ont dit, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Vous pouvez pas laisser construire une chose comme celle-là. Ils se sont rendus devant les tribunaux de sorte qu'il y a un juge qui ordonne la démolition de cette maison-là, maison de 3 millions de dollars. Alors, bien sûr, le propriétaire est pas très content de la tournure des événements. Les voisins, eux autres, sont très heureux de la tournure des événements. Là, la ville de Gatineau a 30 jours pour en appeler de la décision du tribunal. Mais là, il y a des répercussions importantes parce que le monsieur en question, Patrick Mola, lui, veut pas voir sa maison démolie. Alors, il réclame des dommages compensatoires et punitifs de 3,6 millions à la ville de Gatineau. Alors, quand tu essaies de réparer une erreur par une autre erreur, ben des fois, tu te retrouves avec une situation comme celle-là, puis il y a quelqu'un qui va devoir payer pour éventuellement. Tiens, dans les d'autres types de nouvelles qui sont liées un peu à la pandémie, mais indirectement, on vous a parlé depuis le début de la semaine, on a même fait une entrevue pour tenter de comprendre le phénomène hier. Il y a toujours des pénuries d'essence qui se multiplient dans différentes régions du Québec. Après le Saguenay-Lac-Saint-Jean, après la Mauricie, après une station-service également sur le plateau Mont-Royal, ici à Montréal, ben c'est maintenant à des garagistes de Coaticook, en Estrie, de se retrouver sans essence. Une situation qui est liée, entre autres, à la pénurie de camionneurs chez les transporteurs, situation qu'on vous expliquait hier. Alors, comme on avait mal planifié la quantité d'essence que les Québécois allaient utiliser, on se disait, bah, les gens voyageront pas tant que ça, mais là, ça voyage pas mal. Alors, on se retrouve avec des pénuries de carburant dans différentes régions du Québec parce que les camionneurs sont pas capables d'acheminer l'essence là-bas. Il manque de chauffeurs. Alors, c'est un problème qui est lié à la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Et tiens, Jérémy Gabriel, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Jérémy Gabriel. Ben, il veut se lancer en politique. Il avait déjà fait un saut il y a quelques... C'était quoi, il y a... quoi, 2 ou 3 ans, il avait été nommé comme attaché politique d'un candidat du NPD dans la région de Québec. Mais là, il veut devenir candidat lui-même pour le NPD, toujours, lors de la prochaine élection dans le comté de Louis-Saint-Laurent. Et donc, le jeune homme de 24 ans a soumis sa candidature au NPD. Le NPD ne l'a pas encore confirmé, mais lui, il lève la main, il dit « Moi, j'aimerais ça être candidat pour vous dans Louis-Saint-Laurent ». Il risque d'avoir un petit peu de vent d'en face, parce que je connais bien la région de Québec, je connais bien la région de Louis-Saint-Laurent également, le comté de Louis-Saint-Laurent, qui est représenté par Gérard Deltel, le député conservateur. Et Gérard Deltel jouit d'une très grande popularité. C'est une personnalité de la télévision à Québec là, qui était très connue, qui a été député aussi de la DQ, donc qui avait un bagage politique assez important au provincial, qui s'est lancé par la suite en 2015 pour des conservateurs. Et il est très connu dans la région de Québec. Remarquez que Jérémy Gabriel aussi. Le NPD a déjà d'ailleurs fait élire Alexandrine Latendresse dans cette circonscription-là, quand il y avait eu la vague orange, là, souvenez-vous, en 2013, si je ne m'abuse. Alors, donc, le NPD n'a toujours pas confirmé qu'ils vont bel et bien faire confiance à Jérémy Gabriel dans ce comté. Mais, en tout cas, lui est intéressé à représenter le parti là-bas. Et une autre nouvelle qui... C'est un peu... Tu sais, on parle beaucoup des Olympiques, puis c'est un peu tout croche, les Olympiques, cette année. Là, on s'entend là, que ça va être assez spécial de voir les compétitions. Mais là, il y a un article intéressant ce matin dans le Journal de Montréal, parce que le journaliste Martin Jolicoeur a dit, tu sais, à chaque Olympique, les équipes olympiques ont leur uniforme, puis les habits aux couleurs des Olympiques, de leur équipe, et ça ne fait pas exception pour le Canada. Et puis là, ben, on s'est associé à la chaîne de magasins Labbé pour vendre les produits dérivés, c'est-à-dire les produits aux couleurs de l'équipe canadienne olympique. Et ces vêtements-là sont en vente dans les magasins Labbé. Alors, le journaliste est allé voir, puis il a regardé les étiquettes, puis il s'est rendu compte que les vêtements qui sont fabriqués pour aux couleurs, en fait, de l'équipe canadienne sont fabriqués en Chine, au Cambodge et au Mexique. Alors, c'est pas très, très patriotique, mettons, de faire fabriquer ces vêtements ailleurs. Évidemment, l'industrie textile canadienne est en beau maudit. Ils disent, mais là, on peut-tu faire des choses chez nous? Ce serait le fun pour représenter l'équipe canadienne d'avoir des vêtements faits chez nous. D'ailleurs, les Américains, eux, ont compris ça. Les vêtements de l'équipe olympique américaine sont fabriqués par Ralph Lauren aux États-Unis avec une étiquette où c'est écrit « Proudly made in America ». Et c'est pas le cas chez nous. Chez nous, c'est « Proudly made in China, Cambodge et Mexico », si on peut reprendre la formule. Et d'ailleurs, si on regarde d'autres pays, l'équipe française a fait confiance à Lacoste. Alors nous, c'est davantage le Mexique, le Cambodge et la Chine. Mais la délégation canadienne dit « Oui, mais ça, c'est pour les vêtements qui sont disponibles pour le grand public. Les athlètes, eux, sont... habillés avec des vêtements qui sont fabriqués chez nous. » Évidemment, ça va être dur d'aller voir parce que les étiquettes sont à l'intérieur des vêtements. Je ne suis pas sûr qu'on va voir ça lors de la cérémonie, mais on va être obligé de prendre la parole de l'équipe canadienne. Et je termine avec... ça, c'est drôle. Ça se passe en Mauricie. Il y a un CPE qui s'appelle la Clé des champs là-bas. Et ils ont de la misère à recruter des éducatrices. Donc, ils sont obligés de fermer pendant 2 semaines parce qu'il y a des éducatrices qui prennent des vacances puis tout ça. Alors là, ils ont envoyé une communication aux parents qui envoient leurs enfants là-bas en disant « Écoutez, on va être fermé pendant 2 semaines, alors envoyez pas vos enfants, gardez-les à la maison. » Alors les parents ont dit « OK, mais est-ce qu'on est obligé de continuer à payer? » Il a dit « Oui, vous continuez à payer. On va être fermé, on ne donnera pas le service, mais vous êtes obligé de continuer à payer pendant 2 semaines. » Alors là, les parents trouvent ça un petit peu étrange. Et là, il y a une maman qui dit « On m'a demandé si c'était possible de garder mon enfant du 19 au 30 juillet à la maison parce qu'il y avait un manque de personnel. » Et là, quand j'ai demandé si je devais payer, ils ont dit « Oui ». Elle dit « Je trouve pas ça normal qu'on soit obligé d'assumer les frais de garde alors que les services sont pas donnés. » Et c'est à cet effet que les parents ont des interrogations. Ça explique mal de devoir acquitter ces frais-là. Mais il semble que ce soit une procédure normale parce que les subventions continuent à être données par le gouvernement. Donc, il faut continuer à payer même si tu n'as pas le service. Alors, c'est un peu étrange comme façon de procéder. C'est la première fois, dit-on, à ce CPE, que la situation est à ce point critique où on est obligé de fermer la garderie pendant 2 semaines.